Donc, on va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le chapitre 12. La semaine prochaine, je pense que si Dieu veut, on terminera le chapitre 12. Donc, avec ça, on terminera le Igaret Hatshuva. Et je pense que d'ici Pessah, on aura le temps, si Dieu veut, de faire le résumé qu'on avait promis sur les 12 chapitres de Igaret Hatshuva. D'accord? Donc, ça nous donnera l'occasion, si Dieu veut, de faire un résumé sur papier, etc., comme on a l'habitude. Alors. On va commencer donc le Perek Yudbet au chapitre 12, quelle page?
200.
Page 200, d'accord, Kouf Aleph. Ok. Dans ce Perek, dans le chapitre 12, on va revenir sur des notions qu'on a déjà étudiées avant, mais on va les développer davantage. Je vais expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a expliqué, dans le chapitre précédent, que on a ce qu'on appelle Teshuvah Tata'a et Teshuvah Ila'a. Teshuvah Tata'a, Teshuvah Ila'a, c'est-à-dire une Teshuvah de bas niveau et une Teshuvah de haut niveau. C'est notamment un point sur lequel on s'est focalisé les dernières semaines, dans lequel on a expliqué, en mots clairs, que même une fois qu'une personne a déjà fait la Teshuvah, en vérité, la Teshuvah, c'est un travail d'une vie entière. C'est un petit peu la notion qu'on a répétée plusieurs fois. Que je dois me rappeler qu'un jour j'ai fait d'Averot, etc., et qu'il faut positiver, et qu'il faut savoir qu'on doit toujours avancer. Mais ça veut dire que ce qu'on voulait nous expliquer, c'est que la Teshuvah, c'est pas simplement un événement. C'est pas simplement un événement qui se passe une fois, boum, c'est fini, c'est fait. La Teshuvah, il y a ça, c'est la Teshuvah Tata'a, la Teshuvah de bas niveau. Mais après la Teshuvah Ila'a, la Teshuvah de haut niveau, ça prend plus de temps. Ça, c'est un travail d'une vie entière. Mais dans notre Pérec, maintenant dans le chapitre 12, on va se focaliser sur autre chose. On va se focaliser sur ce qu'on appelle le Tikkun. Vous avez déjà entendu parler de tikkun? Tikkun. Tikkun. Réparation. D'accord? C'est un terme qui revient très souvent, très souvent, surtout dans le Zohar. Par exemple, on dit, tel neshama était un tikkun de tel neshama, ou bien kapara, c'est un tikkun, etc. Tikkun. C'est un terme qui revient très très souvent. Bon. Alors, à la fin du chapitre 11, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué la notion de vechatati negdi tamid. Qu'est-ce qu'a dit David Ameler? Il est Bessimcha, il est toujours Bessimcha. Mais il se rappelle constamment que j'ai fauté. Ma faute est toujours devant moi. Pourquoi? On a expliqué pour deux choses. Tout d'abord, c'est pour éviter l'orgueil. Parce que dès qu'on pense qu'on a réparé notre faute, alors on se dit, bon, ça, maintenant tout va bien, donc c'est bon, maintenant je peux y aller. Alors que c'est une erreur. Donc on a expliqué pourquoi c'est important de se rappeler de son passé. Parce que ça nous permet de ne pas être orgueilleux. Qui c'est qui est orgueilleux? C'est celui qui oublie son passé. Quand on n'oublie pas son passé, on sait que c'est déjà pas mal si on arrive à bien se comporter, mais de là devenir orgueilleux, ça non. D'accord? Et on avait conclu le chapitre 11 avec une Gemara dans le traité Shabbat qui disait que, comment définit le Talmid Chacham? Le Talmid Chacham, c'est celui à qui on fait honte, mais qui ne répond pas. D'accord? Ça veut dire qu'on va se moquer de lui et il ne répondra pas. Pourquoi? On avait dit Smechim Beisurim. C'était un point qui était très fort quand on l'étudiait la semaine dernière. On a dit que quand on a un Talmid Chacham, et de manière générale quand on a un juif qui respecte la Torah, quand on a quelqu'un qui vient, qui te fait une crasse, quand tu as quelqu'un qui vient, qui t'embête, qui te dit un mot déplacé, etc., ça te fait ni chaud ni froid. Enfin, c'est pas que ça t'embête pas, bien sûr ça t'embête. Ça te fait ni chaud ni froid parce que tu sais que de toutes les façons, il y a Kadosh Baruch qui est derrière. Et surtout, une notion que j'ai dit la semaine dernière qu'on avait développée aujourd'hui, c'est qu'on a expliqué que je suis même content quand j'ai une épreuve. Pourquoi? Parce que je sais que l'épreuve me permet de me nettoyer. Voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on a expliqué. Donc je répète. Dans les chapitres d'avant, on a expliqué le concept de Teshuvah d'en bas, Teshuvah d'en haut, et comment la Teshuvah est éternelle, la Teshuvah est continuelle, elle ne s'arrête jamais. Mais après, on s'est arrêté sur une nouvelle notion, la notion du fait qu'on doit se rappeler que la Avera est toujours devant moi. Pourquoi? Numéro 1, pour ne pas arriver à l'orgueil. Parce que dans la Chassidoute, on ne supporte pas l'orgueil. On peut pas supporter ça. Numéro 1. Et numéro 2, on a expliqué, bonsoir. Numéro 2, on a expliqué pourquoi, à quoi ça sert. C'est parce que quelque part, quand on a une épreuve, on doit être content de cette épreuve. Parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est venu pour nous nettoyer. Donc je suis content qu'Akadosh Baruch Hu m'a nettoyé. Alors ça, c'est une notion qu'on va devoir développer. Ça veut dire quoi quand on dit être content d'une épreuve? C'est assez nouveau. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière? Avec le Rav, voilà, qu'on lui a dit, vous pouvez commencer à danser et qu'il s'est évanoui. Bon. Donc, dans l'histoire là-bas, on avait raconté une partie de la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara dans le traité Brachot? La Gemara dans le traité Brachot, elle dit là-bas la chose suivante, dans le cinquième chapitre, elle dit que de la même manière qu'on bénit Akadosh Baruch Hu sur un événement positif, de la même manière, on doit bénir Akadosh Baruch Hu sur un événement négatif. Enfin, qui nous paraît négatif. Par exemple, quand Dieu préserve, on perd un proche, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Dayan Ha'emet. C'est-à-dire quoi, Dayan Ha'emet? Le juge de vérité. Alors, je suis en train de bénir Dieu. Si je bénis, ça veut dire quoi? Bénir, ça veut dire quoi? Bah, bénir, c'est-à-dire quelque part, je suis en train de dire merci. Oui. Ça, on a déjà vu. Dans l'histoire, c'est pas un chidouche de Mourazaken, ça. On a déjà vu que, quand on a une épreuve, on accepte l'épreuve. On accepte l'épreuve avec joie. Pas de problème. Bon, ça, je suis d'accord. Mais là, la Mourazaken a rajouté un point qui est plus fort que ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a rajouté de particulier? Il a dit que c'est pas simplement qu'on accepte une épreuve par amour, mais c'est carrément qu'on en est content. Encore une fois, tout le monde est là? Je répète. Le chidouche, c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est ce qui est particulier, et a priori c'est même un grand chidouche de Mourazaken. C'est quoi? C'est que lorsqu'on a une épreuve, dans la Gemara, c'est écrit que lorsqu'on a une épreuve, il faut accueillir Be'ahava, il faut accepter Be'ahava avec amour. Et je dis bon, Kadosh Baruch Hu, il a décidé, je pose pas de questions. On l'a vu ça. T'as de gens qui... Ça veut pas dire j'ai le sourire, mais ça veut dire comment? Be'ahava. Je reçois Be'ahava, c'est une épreuve, on prend Be'ahava. La Mourazaken est partie plus loin que ça la semaine dernière. Elle a dit non. Il a dit, c'est pas seulement qu'on accepte avec amour, c'est que carrément on va être Bessimcha. Bessimcha, on est content, je suis content que Kadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il me nettoie. Alors la semaine dernière, il y avait plusieurs qui avaient posé la question, ils disent, mais attends, est-ce que ça s'apparente pas à ce qu'ils disent chez les crétins, hein, que quand tu reçois une claque, qu'est-ce que tu dois faire?
Tu
tends l'autre joue. Ouais, c'est ça ce que veut dire ça. Je suis content d'avoir reçu une claque, donne-moi l'autre joue. Tiens l'autre joue. C'est bizarre. D'où ça sort ça? C'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui dans le chapitre 12. Donc on prend en page Kouf Aleph. Vetam asimcha beyisure aguf. La raison de la joie, la raison pour laquelle on doit se réjouir, beyisure aguf des souffrances du corps. Pourquoi je dois me réjouir des souffrances du corps? C'est-à-dire, c'est quoi la question sous-entendue? Que j'accepte la souffrance avec amour, c'est une chose. Mais de là à m'en réjouir, de dire merci, pourquoi? Pourquoi je dois m'en réjouir? Je vais me mettre à danser quand je prends une claque? Les filles, Shei Tova Gdola Vatsuma le Nefesh Achotat. Car, les souffrances, c'est une grande bonté, c'est une bonté extraordinaire pour l'âme qui a fauté. Pourquoi? Grâce aux souffrances, ça nous permet, les Marka Baolamazé, ça nous permet de nettoyer la Neshama. Baolamazé dans ce monde-ci, ou les Hatsila Meamerouk Begeinom, et comme on va développer dans la suite, de la sauver d'un autre nettoyage qui aurait dû être beaucoup plus conséquent et beaucoup plus fort, Dieu préserve, qu'on aurait dû faire au Géïd. Ça veut dire comme ça. Ce qui explique Edmond Razaken ici, c'est que tout le monde faute. Et donc, puisque tout le monde faute, tout le monde, un jour ou l'autre, devra être nettoyé. C'est comme ça, c'est comme un... Tu prends une nappe, tu prends un vêtement que tu salis, bah, tout devrait être nettoyé. Sauf que la question est quand il va être nettoyé. C'est où il va être nettoyé. D'accord? Est-ce qu'il va être nettoyé dans ce monde-ci ou dans le Géinom? Ce qu'on va expliquer dans la suite, c'est pourquoi c'est une chance d'être nettoyé ici-bas. Parce que quand on nous nettoie en haut, Dieu préserve, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus grave que ce qu'on aurait fait en bas. Et on expliquera les raisons. On expliquera. Il est rattaché. Mais ce qui est clair, c'est quoi? C'est que pourquoi, dans la Chassidoute, on explique qu'on doit être Bessimcha quand on reçoit une épreuve? Pourquoi on est Bessimcha? On est Bessimcha parce qu'on sait que c'est un moindre mal qu'on a eu en bas. Et que ça évite une grande, grande, grande souffrance du Géinom. Alors, encore une fois. Je vais rappeler ce que j'ai expliqué au début du cours et ce qu'on a expliqué au tout début de Yigaret Teshuva. Dans la Teshuva, il y a deux aspects. Et tout d'abord, le fait de décider de retourner, de rentrer chez Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est numéro 1. Et après, il y a le Tikkun. Par exemple. On a lu la semaine dernière, la semaine d'avant, la Parasha Vayikra et Tzav, dans laquelle on parle des Korbanot. À quoi sert le korban? Par exemple, korban khatat. Korban khatat, c'est un korban qu'on a amené sur le côté. Très bien. Est-ce que ça veut dire que le korban pardonne? Non. Qu'est-ce qui pardonne? C'est la teshuva. Alors, à quoi sert le korban? Vous vous rappelez? Pourquoi on amène un korban à Kadosh Baruch Hu?
Bouquet de fleurs.
D'accord? C'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs chazak pour dire, c'est un bonus pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'aimerais que nos relations deviennent comme à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle du korban, et le rôle de la teshuva qu'on est en train d'expliquer ici, c'est pour ça qu'il y a toujours deux aspects dans la teshuva. Il y a la teshuva instantanée sur place, et après, il y a le service après-vente. C'est quoi? Il donne un exemple très simple. Il dit, regardez, c'est très simple. Prenez par exemple, prenez un verre dans lequel vous allez verser du pétrole. Prenez du pétrole. Vous avez un verre ou un seau, vous versez du pétrole dedans. Tu te rends compte in extremis que tu as versé du pétrole, qu'est-ce que tu fais? Tu verses le pétrole. D'accord? Donc maintenant j'ai un verre propre. Je lave le verre, je rince le verre, etc. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir exactement le même processus que la teshuva. C'est-à-dire, ça veut dire que le pétrole, tu vas peut-être l'enlever. Donc là, ça veut dire que l'avéra, je l'ai enlevé, on a arrêté la faute, on ne refaute plus, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui reste encore? L'odeur. Et ça, l'odeur, avant d'enlever l'odeur du pétrole, tu peux t'accrocher. C'est comme un vêtement. J'avais une tache sur un vêtement, une tache d'huile. Une tache, ce que tu veux, une tache. Je prends le vêtement, je vais le laver. La tache. Est-ce que l'huile est toujours là? Non, l'huile n'est pas là. Ça y est, je l'ai lavé le vêtement, l'huile c'est fini, il n'y a plus d'huile maintenant. Mais la tâche est toujours là. Et c'est ça le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est pour demander à Kadosh Baruch Hu de supprimer cette tâche, de supprimer ce problème. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que faire teshuva, c'est très facile. Ça veut dire, il y avait du pétrole, je vidais le pétrole. Ça, à la limite, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est quoi? C'est de nettoyer à tel point qu'on perd l'odeur de ce qu'on a fait. Ça veut dire comme ça, c'est très simple. Chaque chose qu'on fait dans la vie, ça a un impact sur notre personnalité. Et notre passé, obligatoirement, impacte notre personnalité. Et même quand on se dit qu'on a fait teshuva, et que maintenant on a changé, et que maintenant on recommence plus que ce qu'on faisait avant, concrètement, le fait qu'on a fait une avéra, notre neshama garde l'odeur de l'avéra. C'est quoi l'odeur de l'avéra? L'odeur de l'avéra, ça veut dire que c'est des habitudes qui ont été prises. C'est un vécu et c'est ancré. Et c'est très 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 difficile à enlever. Et ça, c'est la partie la plus difficile de la teshuva. Ça, comme on l'a expliqué, c'est le travail d'une vie entière. Qu'est-ce qui nettoie? Donc la teshuva, on a expliqué, est-ce que la teshuva est liée aux souffrances? Bien sûr que non. Il n'y a pas de souffrance dans la teshuva. La teshuva, c'est une décision, vous rappelez-vous, comme on avait dit, c'est une décision qui peut durer une fraction de seconde. C'est quoi la teshuva? Allez, on se réveille. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est que je décide de ne plus refauter. Ça, c'est la teshuva. Mais ça, c'est la première partie de la teshuva. Ça, c'est quand je prends le pétrole, je l'enlève. Mais après, il y a une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Enlever l'odeur du pétrole. Parce que tout ce qu'on a fait, il y a une odeur qui reste imprégnée en nous. Et ça prend beaucoup plus de temps. Alors, comment on enlève cette odeur? Ça, c'est écrit dans le Zohar, c'est les souffrances.
Faut faire brûler.
D'accord? Les souffrances du Gehinnom et les souffrances dans ce monde-ci.
Oh, le pétrole, moi, je dis.
D'accord?
Faut faire brûler.
D'accord? Les souffrances dans ce monde-ci et les souffrances du Gehinnom, c'est ça ce qui nous nettoie et c'est ça ce qui enlève l'odeur de la Avera. D'accord? Et ça, en vérité, c'est une manière pour nous de nous préparer au Gan Eden. Le Rav Stenzel, il illustre ça avec une histoire. On raconte une fois, il y avait une fois un homme qui apparemment était un grand rachat. Mais comme il était très fort, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il y avait une charrette entière qui était en train de sombrer dans la boue. Et lui, il était très fort et il les a sauvés in extremis. Il a réussi avec son cheval, etc., à les tirer. Et il a sauvé une famille entière. Donc il est arrivé en haut, il est arrivé au ciel. Et le seul mérite qu'on lui a trouvé, c'était quoi?
C'était celui-là.
Et c'est pas n'importe quel mérite.
Bien sûr.
Puisqu'on dit que tout celui qui sauve une âme d'Israël, c'est comme si qu'il a sauvé un monde. Puisque chacun de celui-là aura des enfants et des enfants et des enfants. Donc quand on sauve une personne, on a sauvé un monde. Et à la base, dans le monde, il y avait combien de personnes? Une personne. Donc sauver un homme, c'est comme sauver un monde. D'accord. Donc on a pesé le pour et le contre. Et les anges accusateurs, les anges défenseurs, c'est une vraie histoire. D'accord. Et finalement, on arrive à la conclusion que le mérite qu'il avait était plus fort que sa avérote. Puisqu'on a pris en compte toutes les mitzvot que ceux qui l'a sauvé vont faire grâce à lui.
Il a eu un coup de chance.
D'accord. Il a eu un coup de chance. D'accord. Mais attendez, c'est pas fini. Mais là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, étant donné que cette personne-là était tellement grossier, et que bon, dans sa vie, il connaissait pas trop la spiritualité, donc on lui a dit, bon, pas de problème, on te fait rentrer au Gan Eden, mais on s'est dit, au Gan Eden, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer, ça l'intéresse pas. Alors on lui a demandé, on lui a dit, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir au Gan Eden? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Alors lui, c'était un amateur de chevaux, c'est comme les voitures aujourd'hui. Il a dit, moi je veux un char avec des chevaux, d'accord, qui roule très très vite. Pas de problème. On lui a donné un char avec des chevaux qui ne se fatiguent jamais. Et jusqu'aujourd'hui encore, il est encore en train de fouetter son cheval et d'avancer, d'avancer.
Oh le pauvre. Pénure.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Quel était son problème à ce bonhomme? C'est qu'il avait l'odeur de la Vera. Quand on a l'odeur de la Vera, ça prend... Quand on a l'odeur de la Vera, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour enlever l'odeur de la Vera. Un autre exemple. Je pense qu'il y a un exemple qui est très joli. Il dit comme ça. Il dit, prenez une personne qui n'aime pas l'art. Elle n'aime pas l'art. Faites-le entrer dans une pièce dans laquelle il y a des très beaux tableaux, il y a de la musique classique, il y a des drachotes très approfondies. Ça va lui prendre la tête. Pourquoi ça va lui prendre la tête? Parce qu'il n'est pas préparé. Parce que c'est pas son style. C'est pas son truc. C'est pas son habitude. Soit. Donc, explique ici l'Admor HaZaken. Il dit de la même manière, à quoi sert la deuxième partie de la Teshuvah? À quoi sert la deuxième partie de la Teshuvah? Ça sert à supprimer l'odeur de la Avera. L'odeur de la Avera, elle est supprimée par les épreuves. Par les Yissourim, par les épreuves qu'on peut avoir dans ce monde-ci, et Dieu préserve dans le Géhinnom. Il rajoute dans les mots. Il dit, Ubifrat. Alors comme il a dit, c'est comme le feu. Le feu, ça aussi, ça nettoie. Bifrat. Bedorotenu el. Particulièrement dans nos générations. Dans nos générations, ça veut dire aujourd'hui. She'en biyecholet leit anot kefi mispar kolat somot. Qu'on n'a pas la possibilité et la capacité de jeûner. Kefi mispar kolat somot, comme le nombre des jeûnes qu'on aurait dû jeûner. She'beti kunet shuva mea arizal. Vous vous rappelez dans le chapitre 3, on avait donné différentes averot et à chaque fois on avait...
Le prix.
Non, c'est pas le prix de la teshuva, c'est le prix du bouquet. C'est un bouquet de fleurs. Ouais. Chaque fleur, c'était un jeûne. Donc on avait 84, 240, enfin on allait quoi, c'était aux enchères.
On arrivait à 1000 et quelques.
D'accord? Sans problème, voilà, exactement. Donc ça allait très loin. Sauf que c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'aujourd'hui on n'est plus capable de jeûner tout ça, pourquoi on n'est plus capable? D'accord? Parce que tout d'abord, aujourd'hui, on est plus faible, donc on n'arrive pas à jeûner comme avant, numéro 1. Et numéro 2, aujourd'hui on fait plus d'avérod qu'avant. Donc on a deux facteurs qui se retournent contre nous. On fait plus d'avérod qu'avant, et on a moins la force de jeûner. Alors qu'est-ce qui nous répare aujourd'hui? C'est les Yissourim. C'est les Yissourim, ça veut dire les souffrances. Les souffrances, ça veut dire les épreuves que Kadosh Baruch Hu nous met dans ce monde-ci. Là, avec ça, l'Admor HaZaken veut expliquer pourquoi non seulement qu'on accepte une épreuve avec amour, ça c'est écrit dans la Gemara, ça, dans la Brachot, mais plus que ça, on l'accepte des Simcha. On est content qu'on a eu l'épreuve. Pourquoi on est content? Parce qu'on a expliqué, je suis content que j'ai eu une épreuve, parce que la personne, il se dit, lorsque j'ai eu une épreuve, Akadosh Baruch Hu m'a nettoyé. Et s'il m'a nettoyé, ce qu'on va expliquer ici, un nettoyage, le pressing ici-bas, il revient beaucoup moins cher qu'un pressing en haut. Ce qu'on va expliquer. Et c'est pour ça que quand on a eu un moindre mal ici, on est content. Donc, Atzrichot, le Mirouk, Anefesh, Latzilam, Mirouk, Begeinom. Vous avez dans les mots, Kumoshe Katav. Ukmo Shekatav Aramban Zal. Comme le Ramban.
On sait quand même que c'est. Ici c'est.
Que c'est?
Que ici c'est moins un moindre mal.
Alors on va expliquer.
Là où finalement tu es déjà dans le monde, va dire, de la vérité.
C'est pas forcément difficile à comprendre, c'est même pas logique.
C'est pas logique, bien sûr. Là-haut tu dis là-haut on doit être nettoyé. Ouais. Alors un peu plus, un peu moins.
Ouais. Hein.
Pourquoi une double peine? Pourquoi une double peine?
Les souffrances de Nechama, on n'imagine pas trop ce que c'est. Ouais. Si on dit, on souffre, donc on sait ce que c'est.
Ouais.
Alors, garçon, on te donne le choix comme ça. Tu dis, bon, je préfère souffrir ici ou là-haut? Là-haut, on verra.
Il va expliquer la demande.
Il dit comme ça. Moshe Katav à Ramban Zal. Comme Nachmanide a écrit. Donc le Ramban, Nachmanide. Nachmanide a écrit comme ça. Il a écrit la chose suivante. Il dit. Be'agdama le Pirouche et Yov. Nachmanide a écrit une introduction au commentaire qu'il a fait sur Job. Vous savez, Job, il a beaucoup souffert. Shafilou Isurim Shel Eyov. Que même une souffrance dure, difficile, comme la souffrance de Eyov. Shivrim Shana, même si on devait souffrir comme Eyov pendant 70 ans. En Lem Ererklal, c'est pas comparable du tout. Le Yisurea Nefesha Achaz de Geinom. Aux souffrances, parce que au Geinom, c'est plus le corps qui souffre, c'est l'âme. ce n'est pas, c'est-à-dire même 70 ans de souffrance comme Job. Alors quand je vous dis les souffrances, c'est...
Donc finalement même un nettoyage ici, c'est rien.
C'est les souffrances de chez souffrance. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit que même 70 ans de souffrance comme Iov ne valent pas une heure de souffrance du Géhinnom. Donc, donc,
ça confirme ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a eu un nettoyage rapide.
Ah non, pas du tout.
Pour 70 ans ici, pour avoir un instant là-haut de souffrance.
Non,
là-haut,
je n'ai pas dit ça. J'ai dit que...
C'est ce que je dis.
Chaque heure, tu vas passer là-haut, tu vas...
Job, il a souffert 70 ans, ça vaut pas un instant
non,
là-haut.
Non, je veux dire comme ça.
C'est-à-dire 70 ans de souffrance, et là-haut...
Ça veut dire que lorsqu'on arrive en haut, lorsqu'on arrive au Gan Eden...
Non, tu m'aurais dit l'inverse, 70 ans là-haut, c'est équivalent à une petite souffrance.
Oui, mais en termes d'intensité, en une heure, tu vas souffrir 70 ans d'ici, c'est très grave. C'est-à-dire que si tu restes 70 ans à souffrir là-haut, tu vas
ça veut dire qu'en
contraction.
Ça veut dire qu'en haut, la souffrance est beaucoup, beaucoup plus forte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici.
À un instant, c'est équivalent à 70 ans ici.
À un instant, c'est équivalent à 70 ans ici. C'est énorme. C'est ce qu'il dit ici.
Donc finalement, on en revient
d'ailleurs,
à ce que je dis.
D'ailleurs, comme il va amener après, la Gemara nous dit... La Gemara nous dit que le feu.
Tu peux souffrir autant que tu veux.
Dieu préserve une personne qui meurt par le feu. On dit que c'est la mort la plus douloureuse. La mort la plus douloureuse, Dieu préserve, c'est une personne qui meurt calcinée, d'accord, qui brûle par le feu. La Gemara a dit que le feu, c'est 1/60 du Géhinnom. 1/60. D'accord. Alors imaginez-vous quand on dit que une heure de Géhinnom. Il dit le Ramban, une heure de Géhinnom, et le Ramban, il pèse, c'est bon, hein, il fait pas ici des spéculations, et le Ramban, il sait ce qu'il dit.
C'est atomique.
Il dit que une souffrance d'une heure de l'âme dans le Géhinnom, c'est plus dur que 70 ans de souffrance comme Iov. Maintenant, Iov, je sais pas si vous avez lu l'histoire, mais il a perdu sa famille, oui. Il a perdu ses biens, ses amis sont retournés contre lui, il est avec des ennemis, tous les problèmes qu'on peut imaginer. Socialement, dans sa famille, dans son argent, tout. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on nous dit que tout ça, même 70 ans de souffrance comme ça, c'est même pas une heure de Géhinnom. Alors, on a la question de Yves. Yves pose une question, il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais comment tu peux me dire qu'une souffrance qu'il y a ici, qu'une personne ici, il va prendre une petite claque, on dit, ah, tu sais, t'as pris une claque en bas. Une claque en bas, c'est l'équivalent de en haut, t'aurais dû avoir 100 000 fois plus.
Non.
1 million de fois plus.
Non.
D'accord?
Mais non,
pour
c'est
le même
pas
ce
que ça veut dire.
Le Géhinnom, c'est pas pour des petites choses aussi.
Ah non, ce qu'il dit ici. Parce que là, on va expliquer pourquoi je dois être Bessimra quand j'ai une épreuve. Il dit, c'est très simple. Tu veux pourquoi tu es proche de Bessimra quand j'ai une épreuve? Parce que je sais que quand j'arrive en haut, ça sera plus facile. Pourquoi? Parce que ce qu'il va expliquer ici, c'est que, en bas, ça veut dire que si on devait mettre une échelle, en bas, pour nettoyer une Avera, on va me donner une petite souffrance, mais que si on devait nettoyer la même Avera une fois que j'étais déjà arrivé en haut, quelque part, c'est trop tard, et pour nettoyer la même Avera, on aurait dû donner une souffrance qui est des millions de fois plus forte.
Entre les deux, il y a la mort, et la mort, c'est aussi caparatique.
Ah bah non, c'est justement ce qu'il a expliqué ici. Que une souffrance qui arrive dans ce monde-ci, presque on la sent pas, par rapport à ce qu'on aurait dû sentir. Ce qu'il va expliquer. C'est pour ça que on doit être des simra lorsqu'on a une épreuve. C'est un chidou, ça sert pas seulement que j'accepte pas avec amour. Il y a accepter avec amour, c'est bon. J'aime Akadosh Baruch Hu, je dis rien, je me tais. Ça, c'est une chose. Mais être des simra d'une épreuve, c'est énorme, c'est très très dur. Pourquoi? Explique Admor Hazaken. C'est très simple, c'est logique. Pourquoi je suis Bessimra d'avoir une épreuve? Parce que je sais que en haut, si on avait dû me nettoyer la même Avera pour laquelle on vient de me nettoyer maintenant, j'aurais dû souffrir beaucoup, beaucoup plus. D'accord? Pourquoi? Alors explique Admor Hazaken. Maintenant, la question que Yves va poser, il dit, mais c'est pas logique. Comment ça se fait que dans ce monde-ci, lorsque j'ai une petite souffrance, ça nettoie, ça a un effet extraordinaire, ça va nettoyer, est-ce que ça aurait pris des années en haut pour nettoyer? Comment ça se fait? Il dit, c'est très simple. Il dit, et là seulement, les filles, Sheolam Azé Chesed Ibané. Notre monde a été créé en étant basé sur le Chesed, sur la bonté. Notre monde a été créé Chesed sur la bonté. Ubeisurim Kalim Baolam Azé. Avec de légères souffrances dans ce monde-ci. Nitsol Midinim Kashim Shel Olam Abba. Avec une souffrance légère dans ce monde-ci, on est sauvé d'un din très dur, Dieu préserve, dans le Olam Abba. C'est ce que ça veut dire que Olam précède Ibané. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quand on a une épreuve ici-bas, on doit être Bessimra. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Ce matin, hein, quand je me suis levé à...
parti au Guignon.
D'accord? Alors, attendez, non, écoutez.
Elle est... oui,
attendez, je vais vous raconter. Ce matin, hein, je me suis réveillé à 7h. Donc, je me suis réveillé comme d'habitude, quoi, 7h. Non, je suis rentré, on m'a raccompagné. On m'a raccompagné dans ma voiture. Donc ce matin, hein, je me lève comme d'habitude à 7h pour venir au Milan, etc. Je descends à 7h30. Et de loin, j'aperçois que le capot de ma voiture est ouvert. Enfin, pas le capot, le coffre, quoi. Bien, c'est bizarre. Je dis, bon, peut-être qu'il y a un cambriolage, comme ça. Bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Je m'approche, et plus je m'approche, je sens l'odeur de brûlé. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé qu'en fait, il y avait un scooter à côté de ma voiture. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, il y a des gens qui ont mis feu à ce scooter. Enfin, j'ai dû passer la matinée, hein. Voilà. Et donc, ce scooter a pris feu, il a touché tout le côté droit de ma voiture, et donc il a tout brûlé, quoi. Il a brûlé. Et les pompiers sont venus, etc. Et moi, j'ai retrouvé juste une petite note de la police qui me dit « Revenez nous voir demain à 9h », tu vois. Convocation, enfin, c'est pas pour me... C'est pas une convocation, quoi. C'est pour me raconter ce qui s'est passé. Bon. Et là, vraiment, c'est un sentiment que j'ai eu ce matin. Et je pense que c'est des choses qu'on peut avoir seulement après Pourim. Seulement après avoir l'amitié de Pourim. J'ai eu le sentiment que c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Mais vraiment, kapara dans le meilleur sens du terme. Comment que ça parte dans ça, c'est pas grave. Bon, l'assurance, c'est compliqué, c'est compliqué,
ouais,
l'assurance.
Parce que la cotation de la voiture.
Non, c'est pas seulement, c'est compliqué pour l'assurance.
Pourquoi?
Ça prend du temps.
Ouais, ah oui.
Parce qu'il y a vandalisme, il faut y avoir une enquête, etc. Ça prend du temps.
Il te rembourse, il faut mieux qu'il te rembourse pas, là. Sinon, ça casse son système.
Côté capara.
Non, il en a besoin.
Non, c'est rien, c'est pas une épreuve. J'ai pas dit que c'est une épreuve. J'ai dit que c'est un sentiment que j'ai eu. Non, c'est compliqué l'assurance. Parce que comme quand il y a du vandalisme, il doit faire des enquêtes d'abord, ça prend plusieurs mois. De faire une enquête, après, tant qu'il n'y a pas le rapport, enfin, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, j'étais en train de dire que j'ai eu ce sentiment-là. Vraiment, c'était, et tout à l'heure, après cet après-midi, quand j'ai préparé le cours, maman, j'ai dit, ah, je grave pratique. On voit que, c'est vrai, Kapara, qu'est-ce qu'il y a? Des choses qui ne nous coûtent rien en bas. Ici, à Kadosh Baruch Hu, tu l'écoutes. Ici, en bas, je te donne des petites pichenettes, comme ça. Et après, en haut, tu arrives, t'es clean, on prend. Ça veut dire, Mekabel Bessimra. Ça veut pas dire qu'on tend l'autre joue. Ras Shalom, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on se dit que dans le monde ici-bas, on reçoit des petites pichenettes, c'est pas grave, c'est vrai.
Exactement,
peut-être qu'il a besoin de marcher plus.
Peut-être qu'il a besoin de devenir piéton ou de marcher plus.
Ça marche pas avec Yov. Parce que Yov, il a souffert pendant 70 ans. Et tu as dit tout à l'heure...
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ça ce que j'ai dit.
S'il a souffert Yov, ça correspond à une heure...
Non, j'ai dit que 70 ans, j'ai dit que quand on arrive en haut, la souffrance d'une heure en haut est plus forte que 70 ans de Yov.
D'accord. Donc toi, comme t'as pas souffert comme Yov,
non, mais
il te reste encore du...
Tu n'as pas compris, encore une fois.
Mais l'heure d'ici, elle est équivalente à...
L'heure d'ici, elle est équivalente à celle d'en haut, c'est fini.
Mais...
Peu importe ce qui s'est passé ici. Ça veut dire que...
On te la compte pareil.
On t'a porté la douleur.
On te la compte pareil, mais tu la sens plus là-haut.
Ça veut dire qu'en haut, c'est en live. Ici, c'est juste une petite pichenette. Mais il va expliquer pourquoi la demoiselle Zaken. Comment ça se fait? C'est vrai, il a raison. Il a dit, c'est pas logique. Et je comprends pas. Si tu dis nettoyer, ben, c'est comme t'as un ustensile dans lequel on a mis du pétrole, d'enlever l'odeur. Ben, s'il faut le secouer, il faut le brûler. Qu'est-ce que ça change si je suis en haut, si je suis en bas? Pourquoi en bas, c'est plus facile à nettoyer? Alors la demoiselle Zaken me donne un premier exemple qui est très simple. Il dit, parce que David Ameler, il dit dans Tehilim que, Olam Chesed Ibané. Le monde, a été créé, notre monde a été créé et est basé sur le chesed, sur la bonté. Quand on arrive en haut, comme il va expliquer après, quand on arrive en haut, le olam d'en haut, il est basé sur le digne. Pourquoi? C'est très simple. Parce que notre monde est matériel, alors que le monde, le Gan Eden, est plutôt spirituel. Et alors? Quand on est spirituel, quand on rentre dans la spiritualité, on est beaucoup plus méticuleux. On est beaucoup plus pointilleux. On a beaucoup moins droit à l'erreur. Alors que lorsqu'on est dans le matériel, Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup plus le droit à l'erreur. Et alors? Alors, ça s'explique avec ça, les Mefarchim là-bas dans Tehilim, ils expliquent, ils disent que, quand on dit que, Olam Chesed Ibané, que notre monde a été créé Chesed par la bonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chose qu'on a dans le monde ici-bas, c'est pas seulement pour les épreuves, c'est même pour obtenir quelque chose. Je vais faire un effort, je vais obtenir quelque chose. Si j'aurais dû faire les mêmes efforts en haut, dans le monde de la vérité, pour obtenir et pour mériter vraiment ce que je devais recevoir, j'aurais dû faire des millions de fois plus d'efforts pour recevoir ce que j'ai obtenu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en haut, tout est beaucoup plus fort et tout est beaucoup plus vrai. Et quand c'est vrai, ça veut dire qu'on donne pas quelque chose à quelqu'un tant qu'il n'a pas mérité. Et on ne lui dira pas que c'est pardonné tant que c'est pas réellement pardonné. Ça veut dire comme ça. Lorsqu'une personne arrive en haut, Akadosh aurait dit, bon, on arrête les compteurs. On arrête les compteurs. Maintenant, dorénavant, c'est chaque chose, c'est œil pour œil, dent pour dent. On rigole pas maintenant. Mais ce qu'on a fait en bas, ce qui est déjà passé, ce qu'on a dit que c'est nettoyé, on compte plus. Et ça, c'est valable et dans le côté positif et dans le côté négatif. Qu'une épreuve ici-bas, une petite épreuve ici-bas, correspond à des épreuves très très dures dans le Guéhinnom. Et de la même manière, un effort qu'on va fournir pour recevoir un salaire ici-bas, si on avait dû fournir le même salaire dans le monde de la vérité, c'est-à-dire que si on devait vraiment mériter ce qu'on a reçu, on aurait dû fournir un effort beaucoup plus conséquent. C'est avec ça qu'on explique le Olam Chesed Ibané, que notre monde est basé sur le Chesed. Quand c'est sur le Chesed, dans la Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, juste, tu fais juste un petit geste, on fait juste une formalité, tu fais la formalité et c'est tout. Après, on s'occupe du reste. C'est ce qu'il explique ici. Et il donne un exemple qui est très joli. Il dit, Kemachal, Ilur ve'atakat atzel ba'aret tefar. Lorsqu'on voit l'ombre, vous savez, vous avez l'ombre. D'accord, imaginez-vous, je reste stationnaire, il y a une maison, vous voyez l'ombre. Et vous voyez que l'ombre, elle avance. Avec le temps, l'ombre avance. C'est-à-dire que maintenant, elle est là, dans une demi-heure, elle sera là, donc elle avance. Quand elle a avancé ici, de tefar, elle a avancé de 10 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil a bougé de combien?
Pas beaucoup.
De combien il a bougé le soleil? Ou la Terre, si vous préférez. Bon, enfin, pour nous, c'est le soleil.
Quoi donc? Un mouvement de soleil.
Combien?
Je répète. Ça dépend.
Quand tu vois ici, c'est très simple.
C'est des millions de kilomètres.
Oui. Maintenant, encore une fois, bon, moi je pars de la base que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais peu importe la question.
Qui voit un mouvement.
Ça veut dire que nous, quand on voit ici une ombre qui bouge, d'accord, ou bien un autre exemple qu'il va donner après, quand moi je vois une étoile qui a bougé un petit peu, je vois la lune qui a bougé un petit peu. La lune, je la vois, elle était là, tout à l'heure elle est là. Moi je dis c'est rien, elle a bougé un petit peu, c'est pas grand chose, elle a rien fait du tout. Mais en vérité, on sait que chaque mouvement qui nous paraît ici très petit, en vérité, ça correspond à des milliers de kilomètres, même des millions de kilomètres. Ça veut dire quoi? Avec ça, l'Admor HaZaken veut illustrer le fait que ce qu'on fait ici-bas, c'est comme une ombre qui bouge, mais qu'en vérité, quand l'ombre ici, elle bouge, ça représente qu'en haut, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Et des millions de kilomètres qui sont passés en haut. Et moi, j'ai vu qu'une ombre. C'est pour ça qu'Adosh Boro vient et te dit, écoute, toi, tu viens ici, tu bouges un peu l'ombre, c'est bon.
Ça marche dans les deux sens, pour les avérances.
Bien sûr. Ah oui. Oui, ça marche dans les... c'est vrai? Ça marche dans les deux sens. Mais la Teshuva est plus facile.
Il n'y avait pas les avions, c'est pour ça qu'il ne peut pas passer les avions. C'est pareil. Un avion, on voit...
Oui, pareil. Un avion, tu crois qu'il avance tout doucement, alors qu'en vérité, il avance tout doucement. C'est pareil. Quand il y a la distance...
8 km.
Au moins. Quand il y a la distance...
Ça dépend.
C'est
47, c'est un...
Alors, je sais, quand tu vas à New York, à l'aller, il fait 900 km/h. Et au retour, il fait 1100 environ. 1050, 1100 environ. Parce qu'il est poussé par le vent.
Et dans le ciel, tu vois, t'as l'impression qu'il...
Et presque, il retient, tu vois, pour pas dépasser la vitesse du son. Parce qu'il peut... Il peut dépasser, bien sûr. S'il arrive à aller à 900 contre le vent, ça veut dire qu'avec le vent, il peut largement dépasser les 1100. C'est
ouais, pour ça qu'il faut
bruit. Non, le Concorde, il peut dépasser la vitesse du son. Parce qu'il est conçu pour ça. Mais un avion qui est pas conçu pour ça, il risque d'exploser, s'il est pas conçu pour ça. Alors, une certaine souplesse, enfin bon, je ne connais pas, mais je sais que...
Non, mais en science, on dit que, par exemple, quand tu fais le lancement d'une fusée...
Ouais.
Quand, si jamais tu te trompes de 1/10 de degré...
Ah bah oui.
Au départ, si elle part pas comme il faut, à l'arrivée, ça fait une différence de milliards de kilomètres.
Bien sûr. Mais là ici, il veut expliquer encore une autre notion. J'ai compris ce que tu veux dire.
Au lieu d'aller sur la Lune, il va sur...
Il ira ailleurs, ouais.
Sur Mars.
Mais là, il veut expliquer ici encore une autre notion. Ce qu'il veut expliquer ici, c'est que quand on a un événement qui se passe en parallèle, en haut et en bas, ça veut dire en bas, je vois une ombre qui bouge. En haut, d'accord, il y a le soleil qui est en train de bouger. Un événement qui me paraît minime ici, une ombre qui bouge, est-ce qu'on remarque une ombre qui bouge, c'est rien, elle a bougé. On le remarque même pas, tellement ça avance doucement qu'on remarque même pas une ombre qui bouge. Faut le regarder et dire, ah, il y a une demi-heure, il était là, maintenant il a bougé de 10 cm. C'est rien, une ombre qui bouge, on le voit pas. Et pourtant, le fait que l'ombre a bougé, ça nous montre qu'en vérité, en haut, et le soleil, il y a eu un mouvement en haut de milliers de kilomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça illustre, mamash, le fait que s'il faudrait au Guéhinnom des milliers de kilomètres pour parcourir, pour arriver à un résultat, ici c'est une ombre, ça bouge, tu le remarques même pas. Tu le sens même pas. C'est une ombre qui a bougé, tu l'as même pas vu. Si tu avais pas regardé, t'aurais même pas rendu compte. Ça c'est l'exemple qu'il veut donner ici de Mourazaket.
Comment ça, les histoires racistes qu'on raconte, par exemple? et puis il est content pour le Shabbat, il danse avec sa femme.
Bah, bien sûr, ouais.
Et le Bachato, il était là-haut, ça fait un...
Là-haut, il y a un tsunami en haut, là.
Tsunami, là.
En haut, c'est la terre qui a tourné. D'accord. Donc il dit comme ça. Et là, je reprends dans les mots. Et là, les filles, vous savez, et là, les filles. Et là, les filles, donc je suis au point. Au point, 6 lignes, 7 lignes avant la fin. Et là, les filles, seulement la raison en est. Chiao, la mazé, chesed, ibané. Notre monde a été construit sur une base de chesed, sur une base de bonté. Et alors, la reine, c'est pour ça, bi sourim kalim, voilà mazé, avec une souffrance légère, qui nous paraît légère, qui n'est pas trop dure, c'est pas très dur à supporter, c'est rien, c'est facile. D'accord ? Une souffrance qui est légère, Beolamazé dans ce monde-ci. Nitsol, Midinim, Kashim, Shel Olamaba. Avec ça, on est sauvé d'un din qui est très dur du Olamaba. Ça veut dire que lorsqu'on prend une souffrance ici-bas, ce qu'on doit se dire, c'est que cette même souffrance, si on aurait dû la recevoir en haut, elle aurait été encore beaucoup, beaucoup plus forte. Et que même si ici on a souffert et que ça nous a fait mal, en haut on aurait eu beaucoup, beaucoup plus mal. Beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'on peut s'imaginer. D'accord, c'est comme si on prend l'exemple des astres. Vous voyez une étoile filante ici. Moi je vois une étoile filante. Bon, je dis, il y a une étoile qui a filé. Mais en vérité, tel que ça s'est passé en haut, c'est extraordinaire si on voyait l'étoile filante en live devant l'étoile filante. C'est des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres qu'elle parcourt en une fraction de seconde. Seulement nous, quand on voit, on dit bon, ça je l'ai vu parcourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut expliquer la Gemara Zaken ici pourquoi on doit être Bessimra lorsqu'on a une épreuve. Pourquoi je suis Bessimra? Parce que je me dis, Akadosh Baruch Hu, il est gentil avec moi, il me nettoie ici. Et si Akadosh Baruch Hu avait dû me nettoyer en haut, Dieu préserve, ça aurait fait beaucoup plus mal. Donc on m'a nettoyé ici, c'est fait, ça y est. Après quand j'arrive, Dieu dit bon, c'est pour ça maintenant, affaire classée, on n'en parle plus.
C'est-à-dire que celui qui souffre ici-bas, c'est parce qu'il y avait des choses qui étaient pardonnées?
Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, je dis que quand on a fait teshuva et qu'on sait qu'on a quelque chose à reprocher, alors la personne se dit pour elle-même, pas pour les autres, il se dit... Il se dit que si Akadosh Baruch Hu m'a fait souffrir, c'est que je suis content parce que ça me nettoie. Puis ça me nettoie, ça m'enlève le droit de la vera. Ça veut pas dire que tous les gens qui souffrent pour ça. Il y a des autres raisons pour lesquelles ils souffrent. Et les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais une personne qui a fauté, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que au lieu de, quand une personne a une épreuve, dans quel cas on fait tomber l'épreuve dans le domaine de l'inconnu, on dit je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. C'est quand j'ai rien à me reprocher. Et si j'ai à me reprocher, je vais dire Dieu, je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais bien sûr je sais pourquoi t'as fait ça. Je suis pas bête. D'accord? Oui, non mais il y a des avérotes, chacun a sa avérote. Chacun a sa avérote, chacun a son niveau. D'accord? Donc celui qui n'a rien à se reprocher, là, il ira dire bon, je sais pas à quoi ça sert. Ou bien sur une autre personne. Il ne faut jamais dire quand une personne a une épreuve, dire ouais, il a eu ça parce que ça. Tu vois, son magasin a brûlé parce qu'il fait pas Shabbat. Non, sur l'autre, tu parles pas.
D'accord?
Mais sur soi, pour côté les assurances, mais sur soi. Mais sur soi, sur soi-même, c'est évident qu'on doit dire, qu'est-ce que je m'en crois, c'est rien, il nettoie. T'es clean, t'es propre.
Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils sont nés, ils ont fait faire toute leur vie, quoi. Ils ont pas le temps de faire une avéra, quoi. Donc cela, c'est obligé de...
Qu'est-ce que t'en sais? Occupe-toi de tes affaires d'abord.
Non mais,
excuse-moi. Il y a des gens qui veulent changer le monde. Occupe-toi d'abord tes affaires, de toi-même, de ta propre personne.
Je te parle pas ça, je te parle de celui, par exemple, qui est dans une famille où il n'y a rien à manger, toute sa vie, il a faim, il y a une guerre, il se massacre.
Mais qu'est-ce que c'est la vérote qu'il a fait?
Il a fait, il a rien fait.
Qu'est-ce que c'est la vérote, excuse-moi, qu'est-ce que c'est la vérote que ses parents ont fait? Parce que les enfants payent pour les parents.
Voilà.
Ah oui.
C'est pour ça que je te...
Bien sûr.
Les enfants payent pour les parents s'ils suivent la même voie.
Voilà. Quoi? Pas forcément.
Bah alors, tu peux leur dire...
Non, parce que non, les enfants payent pour les parents.
La troisième et quatrième génération.
Les enfants payent pour les parents. Surtout, Dieu préserve les enfants en bas âge. C'est écrit que les enfants en bas âge sont considérés comme les biens d'un homme. Et quand Dieu veut attaquer les biens, il peut toucher les enfants à Shemichma. C'est pour ça que quand on a des choses comme ça, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait des petites pichenes, on ne sait rien. On va dire merci à Kadosh Baruch Hu. D'accord, mais ça veut dire que si ici-bas, c'est toujours rien à voir avec ce qu'on aurait dû avoir en haut. Rien à voir, mais ça n'a rien à voir. D'accord.
Non mais d'accord, mais on parle de ce qu'on peut comprendre.
Voilà.
Malheureusement, ils ont des maladies très graves, ils passent des années dans la souffrance.
Mais encore une fois, j'ai pas dit que si une personne souffre, c'est parce qu'il a fauté, encore une fois. On a repris ce qu'on a expliqué dans le Perek Yud Aleph, qu'une personne doit être Bessimra lorsqu'elle a une épreuve. Proyel Bessimra lorsqu'il a une épreuve. Ce qu'on a dit, de se dire merci à Kadosh Baruch Hu m'avoir nettoyé. C'est un chidouche de Morozakan. Ça veut dire quoi, Bessimra, d'avoir une épreuve? Pas seulement d'accepter avec amour.
Mendy, honnêtement, tu penses que les gens qui ont des épreuves ici, ils pensent comme ça, ils sont contents.
Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est une manière de.
Non, je comprends. Non. Mais maintenant, voilà.
C'est un travail sur toi.
Il faut quand même.
Fais une épreuve, ça peut être perdre de l'argent.
Non.
Une épreuve, c'est des tas d'épreuves. D'accord? Ça peut être perdre de l'argent, ça peut être perdre un client, ça peut être des tas de choses. C'est des épreuves, ça. C'est des épreuves, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des épreuves.
Mais il parle d'un moindre mal.
Chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est un moindre mal. C'est ce qu'il te dit ici. Chaque fois que j'ai une épreuve ici-bas, Akadosh Baruch, ça me permet d'enlever l'odeur de la gerra.
C'est mieux que t'épouses déjà une femme qui fait souffrir tous les jours.
Non, pas du tout. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch
Hu. Tu as une femme qui te fait souffrir tous les jours.
Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de nous faire, c'est que même s'il doit nous faire souffrir, qu'il nous fasse souffrir doucement, sans
que ça passe,
sans qu'on s'en aperçoive, tu vois. Des petites pichenettes par-ci par-là, qu'on sente pas. Bon, des petites galères, mais c'est pas le bout du monde. Parce que chaque fois qu'il y a une ombre qui bouge, en haut, c'est un nettoyage complet, c'est un karcher, c'est le monde entier s'est renversé. D'accord? Donc, quand on entend ça, on est Bessimra. Ça veut pas dire que je tends l'autre joue. D'accord? Ça veut pas dire que je tends l'autre joue, mais ça veut dire que je dis bon, si c'est un investissement pour plus tard, bon, ben on a investi. Au moins on a réparé. Au moins c'est fait. D'accord? Plus tard on récupérera. Dans les mots, il dit Kemachal, Ilour via Atakat. Donc l'exemple qu'il donne ici, c'est comme Ilour, c'est-à-dire la marche via Atakat et le déplacement, Atsel Baharet. Lorsque l'ombre se déplace dans le sol, Tefar. Imaginez l'ombre qui se déplace dans le sol, Tefar, 10 cm. Qu'on sait que si ça se déplaçait de Tefar, de 10 cm, c'est insignifiant pour nous. On ne remarque même pas comment on expliquait. Les filles Hilour, Galgal, Hashemesh, Barakia. Que ça correspond à quoi? Ça correspond à une marche, ça correspond à une avancée du soleil, Barakia, dans le ciel, à la fille Milim. Des milliers de milles, un mille, d'accord? C'est environ, un mille, c'est environ 2 kilomètres, c'est environ 2 kilomètres, environ. D'accord?
C'est un
mille marins. C'est environ à peu près 2 kilomètres. D'accord? À peu près. Alors, il y en a qui disent c'est un 4, il y en a qui disent un 6, il y en a qui disent 2, environ 2 kilomètres. On va simplifier à 2 kilomètres, pour pas, ou un 6, si vous voulez. En tout cas, quoi qu'il en soit, un mille. D'accord?
Le mille,
ils ont pompé. Non, mais le mille, c'est pas la, il y a plusieurs avis. D'accord. Je parle alachiquement parlant.
C'est 1609 mètres.
Le
mille marin, c'est 1200 et quelques. Le mille marin.
Le mile américain,
c'est 1609. 1609, exactement.
C'est vrai, ouais.
Et le mille marin, c'est 1200 mètres.
Bon, je crois que je suis pas sûr.
Donc à la fin, millimes, des milliers.
T'as pas l'application?
On va regarder, mais je pense que le mille marin, je crois que c'est 1200.
Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que sur un mouvement d'un téfar.
J'ai envie de te
croire. Sur un mouvement d'un tefar ici-bas, qu'est-ce qu'on te dit? Un tefar qui a bougé ici-bas ça veut dire, c'est rien un tefar, 10 cm, même pas. D'accord? Entre 8 et 12 cm, c'est rien. Sur un mouvement de 10 cm ici, en vérité, c'est des milliers de kilomètres que ça a bougé en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ça, l'Admor HaZaken veut expliquer, dans un autre endroit aussi, il explique ça, la notion de l'effet miroir. Que, nous, ici en bas, ça bouge très lentement, mais qu'en vérité, ici, ça reflète des changements extraordinaires qui se passent en haut. Par exemple, nous, ici-bas, on fait des chagim. On fait la fête de Pourim, on fait etc. On fait la fête de Pourim, on fait la fête de... Chaque fois, on a des fêtes, d'accord? Dans la fête de Pourim, comme ce qu'on a expliqué au Favringen Shabbat, dans la fête de Pourim, finalement, quand on analyse, ici-bas, il s'est pas passé grand-chose. C'était classique, d'accord? Il y avait une femme qui s'avère être la femme du roi, qui a réussi à arriver au bon moment. C'est son mari quand même, c'est pas n'importe qui, Rachverosh. C'est vrai qu'elle n'était pas censée venir le voir aujourd'hui, mais elle était belle, c'est son mari, elle s'est maquillée. Oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Elle l'a fait et ça a marché. Ça veut dire que si on analyse l'histoire de Pourim, d'accord, de manière diplomatique, c'est pas un grand miracle. Pas un grand miracle, il n'y a rien de particulier. On a eu des tas d'histoires dans l'histoire juive dans lesquels on avait des problèmes diplomatiques, on a amené les bons avocats et les bons trucs, on s'en est sortis. On n'est pas parti faire des fêtes de pourri. Chaque fois qu'on a un problème et qu'on a réglé ça avec un avocat ou avec quelqu'un qui est gracieux, c'est, on dit ça y est, on fait pourri. C'est ça pourri. Alors oui, vous allez me dire, oui, ce qu'il y a de particulier à pourri, c'est que c'était à grande échelle. D'accord, j'ai compris. Mais on n'a pas vu un miracle spectaculaire. D'accord? Pourquoi? Comment ça se fait? Mais encore une fois, ce qu'on explique ici, c'est que c'est un miracle qui est comme une ombre ici, mais qui reflète en vérité un grand changement en haut. Quelle est la différence entre les miracles qui sont visibles en bas et les miracles qu'on ne voit pas? Les miracles qu'on voit ici, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire descendre une comète ici-bas. Et donc du coup, waouh, on dit c'est impressionnant. Mais quand Akadosh Baruch Hu te montre pas et que pourtant en bas ça te paraît anodin, ça veut dire qu'en vérité la comète elle est restée en haut et que si pour toi ça avançait très peu, ça veut dire qu'en haut il y a eu un changement extraordinaire. Et qu'en vérité, c'est quoi le changement extraordinaire qu'il y a eu en haut? C'est qu'il y a eu une teshuvah extraordinaire d'Ebnei Israël, qui était très loin à ce moment-là. Qui était très loin à ce moment-là d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait la teshuvah, le problème a été réglé. Le soir même que Mordechai a réussi à rassembler 22 000 enfants et qu'ils ont prié et qu'ils ont étudié, le soir même le problème s'est réglé. Le soir même, Achashverosh n'arrivait pas à dormir, on a appelé, on lui a lu le livre des archives, etc. Le soir même. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que lorsque ces enfants ont fait les Tehillim, il y a eu tout de suite un grand changement. Donc en bas, ça nous a paru quelque chose d'anodin, mais parce que en bas, c'est l'ombre. Qui dit l'ombre dit que c'est rien par rapport à ce qui se passe en haut. Il y a de Morazaken ici. Veyeter alken l'enket ou ben nimshal vivrinat ishtal shelut alamat. Ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est encore beaucoup plus fort. Les enquêtes, ça veut dire de façon illimitée. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit le Ramban? Il a dit qu'une heure de Gehinnom n'équivaut même pas, on a dit, combien de temps? 70 ans de souffrance comme Iov. D'accord? Alors, bon, je sais pas, je suis pas capable de calculer les souffrances de Iov pour dire, enfin, il faudrait voir la souffrance de Iov et la souffrance de Gehinnom pour calculer le ratio. Mais en tout cas, c'est énorme. Je dis à Mourazaken que tu vois la différence qu'il y a, le ratio qu'il y a entre l'ombre que tu vois et le mouvement du soleil. Ça, c'est rien du tout par rapport à la différence qu'il y a, hein, le ratio qu'il y a entre ce qu'on fait ici-bas sur Terre et ce qui correspond dans le Olam, à bas, dans le Gan Eden, où Dieu préserve dans le Gaïna. Donc, Yeter Alken Enket ou Benimshal. Il en est beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte, de manière illimitée, Benimshal, dans l'image qu'on va amener avec l'histoire de soleil. Biprinat ishtal shelut haolamot. Mais ruma ma'alot adolamaze agashmi. Que de la même manière que le soleil, quand la lumière du soleil, avant d'arriver ici, elle passe par des milliers de kilomètres. Combien de kilomètres la lumière, le soleil passe?
300 000 km.
Combien? Oui, d'accord.
Non, ça, c'est la vitesse.
C'est la vitesse de la lumière. Mais à combien de kilomètres il est?
Tu calcules. Par rapport à la vitesse de la lumière, tu vas calculer, non?
Tu vas calculer.
Si, tu prends un miroir et tu vas à quel moment il se reflète sur le soleil.
Mais quand tu sais quand elle part,
tu sais pas. Il faut le voir arriver d'abord.
La distance par rapport au soleil, tu voulais.
C'est une catastrophe.
C'est impossible.
Oui, parce que d'un autre côté, lorsqu'il y a une petite épreuve, ça répare. Donc, soit je fais des calculs, je dis bon, ça va, il a eu ça, allez, c'est bon, on zappe. Il dit, bon, ça va, il y a eu ça. Et mais nous, on se rend même pas compte. Nous, c'est des choses, va te rappeler ce que t'as fait il y a une semaine. Oui, c'est passé il y a une semaine, il y a Khafra. D'accord? Mais pour Akadosh Baruch Hu, en une semaine, il s'est passé des tas de choses. Le monde entier a tourné des millions de fois. C'est ce qu'a expliqué Seth Mourazaken. Dans les mots, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que veyeter alken l'enket soubenimshel vrinach ishtalshelut haolamot. De la même manière qu'on est en train de dire combien de kilomètres il y a, et ils sont où les iPhones là, combien de kilomètres il y a entre le soleil et la Terre?
Beaucoup.
Combien de kilomètres entre, bon, des millions de kilomètres certainement. Hein? Plusieurs millions.
Oui, des millions, oui.
Plusieurs millions de kilomètres, d'accord. Donc il y a une distance qui fait que, et c'est cette distance qui fait
qu'on n'est pas mort.
Que d'abord le soleil nous paraît petit, alors que quelle surface fait le soleil?
On n'a pas révisé la vérité.
Comme une bille à côté d'un ballon de football, on dit.
Le soleil, dit Maïmonide, il fait 180 fois.
Ouais, c'est ça.
Il est 180 fois plus grand que la Terre. Ouais. C'est dit Rambam. Pourtant, nous, il nous paraît petit. Même quand il nous a l'air grand. Combien grand il est déjà?
149 millions.
D'accord?
Il y a 149 millions.
Combien?
149 millions. 597 800.
Voilà. Ah, ça en fait des kilomètres.
149 et... millions.
Ouais. Et la superficie du Soleil?
C'est... Tu as dit 180 fois.
Ouais, moi je dis 180 fois. Ouais.
Je sais pas
si... Enfin, non, Rambam, ils disent que ce qu'on disait à l'époque.
C'est pas très... C'est pas très au point.
Non, mais je sais que ça... ça...
Hein?
T'as été sur quoi? Sur Wikipédia?
Alors...
Sur Wikipédia, David.
Je n'ai pas...
C'est fort que tu
veux
passer
l'heure
d'iPhone, là-haut,
c'est énorme.
Bon,
il y a 2000, ça donne... Alors, il n'y a pas d'iPhone. Il n'y a pas. Tape superficie soleil.
Dans la route, je peux appeler tranquillement.
Diamètre, oui. Combien ?
1 332 000.
Alors, tape superficie soleil vs Terre.
Ce qui est Terre.
Versus.
Versus. Vs Terre. Laisse tomber les
nez. Superficie ? Non.
Remarque.
Non, c'est la superficie que je veux.
Non, mais mon truc, le clavier est super vert. Jean-Marie, il a pas sorti le Nokia.
Hmm. Comme quoi, hein, tu vois. Le...
Non, parce que ça enregistre. Moi, j'aurais déjà trouvé la réponse dans la moitié du temps.
Non.
En un nombre de temps. Bon, c'est pas grave, on verra après le cours. On continue. C'est bon?
Bon, les gars.
Allez, on continue.
Éteins le jeu plutôt, ça.
Dans le monde de l'information, la force d'avoir l'information le plus rapidement possible. Parce que tu vois, maintenant, c'est même plus intéressant. T'as vu, vous avez vu dans quel monde on vit, maintenant, ça ne t'intéresse même plus.
Ouais, mais parce que c'est pas intéressant.
Ah non, pas du tout, c'est intéressant, il y a 30 secondes.
J'ai pris les calculs de Maïmonide comme postulat, comme acquis, j'ai pas besoin de chercher.
Maïmonide, il s'est pas basé sur la Torah pour dire ça. Tous les calculs qu'il a fait,
ils pourtant, sont... Pourtant, je sais que ces calculs-là, ils sont avérés vrais.
Oui, ils sont avérés vrais approximativement. Ouais.
Ouais, mais quand même.
Donc on a dit 180 fois. Bon, je suis en train d'expliquer. Donc il dit, la Morazaka, il nous dit une idée qui est très simple. Il dit, regarde, pas compliqué.
Bon, il dit... corrige, hein, le 1000, c'était 1852 mètres, et pas 1200.
Ah. Le 1000 marin.
C'était 1852.
D'accord. Donc je suis en train d'expliquer. Il dit, la Morazaka. Tu vois, comment ça se fait que moi, l'ombre me paraît tellement petite? Parce qu'il y a une distance. Une distance de combien de kilomètres? Combien de millions de kilomètres, on l'a dit? 148 millions de kilomètres. C'est énorme. D'accord? Nous dit l'Admor HaZaken, l'Aishtal Shelut des mondes, l'enchaînement des mondes, pour passer du spirituel au matériel, donc Gan Eden ou Gehinnom, ce qui est en haut, et pour arriver, pardon, à Olam Hazeh, à ce monde-ci, le processus est beaucoup plus long à l'infini, est beaucoup plus grand à l'infini que 148 millions de kilomètres. Si on voudrait s'imaginer la distance qu'il y a entre notre monde, la distance spirituelle entre notre monde Gashmi et le Gan Eden, ou bien même le Gehinnom, c'est-à-dire le monde spirituel, c'est à l'infini encore plus que 148 millions de kilomètres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec ça, va expliquer l'Admor HaZaken le fait que nous, une Avera qui nous paraît pas du tout importante ici, ou une Mitzvah qui nous paraît insignifiante ici-bas, en haut, elle peut faire des choses extraordinaires. C'est un satellite. En hausse, on bouge sur l'extraordinaire.
109,
combien?
109 fois plus grande que la Terre.
109 fois?
Ouais, non, un diamètre, le diamètre.
Ah non, c'est pas le diamètre que je veux, c'est la superficie.
C'est le diamètre
à
la superficie, hein.
Ah non, pas forcément.
Oui.
Non, ça dépend, non?
Pierre carré. Voilà.
Ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme.
Pierre carré.
Le soleil n'est pas rond, non?
Mais la Terre non plus.
Hmm?
La Terre non plus.
La Terre est pratiquement...
Elle a plaqué au vol.
Avoir le rayon, c'est avoir le...
Ouais, ouais.
Bon, en tout cas, Rambam, il dit 180. 180 fois.
Rambam, il a mesuré avec les rayons, etc.
Non, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il s'est basé sur les sages de son époque. C'est pas...
Il a pas mal.
Donc... Non, c'est des faits. Je me raconte ici. D'accord, donc avec ça, ce qu'on a compris, c'est qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que la relation qu'il y a entre ce monde-ci et le monde et les sphères célestes, c'est une relation qui est très complexe, puisque des choses qui nous paraissent insignifiantes ici, en vérité, sont très importantes. Et de l'autre côté, on peut comprendre aussi que des choses qui nous paraissent importantes ici, pour en haut, ça vaut rien du tout. Parce que c'est je pense que c'est disproportionné. Le meilleur exemple, c'est l'exemple qu'il a donné. Le soleil et l'ombre. Mais Kanoda, comme c'est écrit. Image que tout Zohar Kadosh. Comme c'est connu de ce que le Zohar nous dit, Meinyan Aliyot Aolamot Elyonim Beit Arutat Ditzata. Le Zohar explique dans plusieurs endroits le concept des mondes, des sphères célestes qui s'élèvent ça veut dire des choses qui se passent dans les sphères célestes. Beitaruta Zitata suite à un réveil d'en bas. Ça, c'est une notion qu'on a étudiée plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est très très fréquente dans le Zohar. C'est bon, c'est pas grave.
C'est bon, je suis
Où c'est? Où
c'est? Pas fin des gâteaux, tu vois?
Pas encore, la semaine prochaine aussi. Allez, on va pas finir aujourd'hui. La semaine prochaine, on fait le deuxième cours sur le père écu de bête. Et après, on fera les résumés, si tu veux, sur papier, etc. Pour arriver d'ici Pessar, peut-être une semaine avant Pessar, je sais pas. Donc, je suis en train d'expliquer. Bah oui, après pour Rim, c'est Pessar.
Oh, tu peux te faire nettoyer là-haut, ça coûte moins cher?
Ah non, c'est pas galère. Regarde. Finalement, c'est pas galère. Non, mais finalement, on relativise tout quand on voit ça.
Tu nettoies ici, tu veux ça, pas en bas.
Donc, j'étais en train de dire que la Dvora Zakan, il dit qu'il ramène ce qu'on dit dans le Zohar dans plusieurs endroits. Le concept de Itaruta Ziltata, Itaruta Zilraela. Le réveil d'en haut, le réveil d'en bas. Ce qu'on nous dit dans plusieurs endroits, que lorsqu'on a un réveil d'en bas, c'est-à-dire que lorsqu'une personne fait un effort, il y a un réveil d'en haut. C'est-à-dire qu'apparemment, Akadosh Baruch Hu est touché de ce qu'on fait. C'est la même question qu'on peut se poser. Comment moi, qui est une créature insignifiante, peut faire quelque chose qui va toucher Akadosh Baruch Hu? C'est rien, moi, c'est rien. D'accord? Walou, c'est rien du tout. Comment c'est possible? L'ombre, l'idée de l'ombre répond à beaucoup de choses. C'est que même si moi, par rapport à mes yeux, je me sens insignifiant, et que même quand j'avance, je crois que, comme il a dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, d'accord? Même si moi, je sens que j'ai rien fait, j'ai fait un petit pas, mais en vérité, le monde est en train de changer. Le Zohar amène ça plus particulièrement, et c'est très pratique, puisqu'on vient d'étudier la parasha Vayikra et Tzav. Be'akravat of echad ben yona otor agaba misbehar. Vas-y, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Faut faire un corban. D'accord? Il fait exprès d'amener un exemple d'un corban qui nous a l'air anodin. T'as dit, tu amènes un pigeon. Un pigeon t'amène au misbehar. Ça arrive chez le coach, et voilà, j'ai mon pigeon. Tenez, on lui fait la shrita et on le met dans le feu. Bravo, ça y est. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ça correspond à quoi?
Un petit bouquet, d'accord? C'est une rose.
Ouais, c'est une rose, tu vois.
C'est une rose.
C'est un pigeon, tu vois, tu prends un pigeon. C'est qui le pigeon,
il
dit?
Il n'y a pas d'argent, il y en a un EFA, encore
bien. Ça, c'est... Ou bien, attendez, c'est pas fini. Au Komet Smincha. Il y a même certains sacrifices dans le côté des écoutes. Pas besoin de... Une poignée de farine. Tu viens avec une poignée de farine, tu vois. Tu prends dans la cuisine une poignée de farine, tu amènes. Tu vois, la tenez, c'est pour la maison. C'est moi qui offre. Poignée de farine. À quoi on joue?
C'est royal.
D'accord? N'importe quoi. Ça veut rien dire. Et qu'est-ce qui explique le Zohar? Le Zohar, il dit que pour nous, peut-être, ça nous paraît des choses insignifiantes. Mais en haut, dans les sphères célestes, quand on amène un corban à Kadosh Baruch Hu, c'est la farine du monde entier qui participe. C'est les oiseaux du monde entier qui chantent en même temps. C'est etc., etc. Et les animaux, c'est l'animal entier qui monte vers Kadosh Baruch Hu. Tous les animaux qui montent vers Kadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on le voit? Bien sûr que non. On le voit pas. Seulement quoi?
Même le pont.
Ah, quand je me retourne, c'est pas grave si tu vois pas, je t'ai pas demandé de voir. Je t'ai demandé de faire. En haut, tu verras.
Déjà, si tu le fais, c'est que t'as quand même conscience.
Ah, est-ce que tu te vois amener une poignée de farine au Betamigdash?
Bah ouais, mais si, ouais, mais justement, c'est tellement ridicule, c'est tellement ridicule que si tu le fais, c'est que t'as pris conscience.
Tu vois, dans ta poche, t'as un petit sac avec la farine, t'arrives au coin, tu dis, tenez, c'est...
Justement, c'est de ça que tu...
C'est moi qui régale.
Oui, d'accord.
Plus c'est ridicule, plus tu...
Oui, mais le Zohar s'arrête dessus, il dit, mais c'est... Je veux dire, à la limite, celui qui offre ça, il peut dire, mais c'est tout ce que vous me demandez?
C'est là, la
part. Il a tellement offert par ailleurs.
Il a tellement quoi?
Il a tellement offert par ailleurs.
Il a tellement...
Offert par ailleurs.
Attends, j'ai pas compris.
Un bœuf par ici, un truc par là, un machin, j'ai pas dit...
Attends, deux secondes. Le bœuf, c'est pas dans n'importe quel, le bœuf.
Oui, d'accord, et bon...
Attention, deux secondes.
Bien cher, hein.
Ah non, ça va pas cher du tout.
Le bœuf,
dans un cas dans lequel une personne a fauté, etc., et devant des témoins, c'est attention, c'est pas rien. C'est pas tous les jours qu'on a des bœufs.
Heureusement, ça coûte cher, un
bœuf. Ça coûte très cher, surtout à l'époque. D'accord? Surtout à l'époque, le bœuf, ça valait très cher, c'était un outil de travail. C'était l'outil de travail par excellence. Bien sûr, ça coûtait très cher. On voit qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'on nous raconte, que des sacrifices standards, classiques, tu vois, par exemple une femme qui a accouché. D'accord? Qu'est-ce qu'elle amène comme sacrifice? D'accord? Elle amène, bon, normalement, elle doit amener, si je ne me trompe pas, Non, mais d'abord, il y a plusieurs options. Vous pouvez passer à Rouba, s'il vous plaît?
Une
femme qui accouche.
Comment elle s'appelle?
Pourquoi?
Quoi?
Pourquoi?
C'est dans la parachute
Azria. Pourquoi elle doit amener quelque chose?
Comment il s'appelle?
Pour remercier Kadosh Baruch Hu. Ah, ça c'est plus
Yann,
ouais. Ouais,
c'est un Toda, c'est un quoi?
Non, c'est pas, c'est une variante de Toda. Ouais, Tazria. Voilà. Voilà. Donc dès qu'elle a fini ses jours de pureté, elle devra amener un agneau, ou Vanyona Otor Lechatat. D'accord? Elle devra amener un agneau pour un Korban Orla, et Vanyona Otor Lechatat, et Vanyona, ça veut dire une colombe, ou bien une tourterelle, Lechatat pour Lechatat. Et après, c'est, voilà, Ve'im Lotim Tsayadat Dese, si elle n'a pas les moyens d'acheter un agneau, dans ce cas-là, Ve'la Krash Tetorim Oshnem Vanyona. D'accord? Pourquoi Khatat? Parce qu'on dit que c'est la capara. On dit que lorsqu'on a la naissance, on est passé par une stade qui était proche de la mort. Enfin, il y a plusieurs raisons pour ça. D'accord? Donc elle amène Echad le Khatat, Echad le Ola, Echad le Khatat. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici le verset? Si la femme n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène, et donc il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'elle n'a pas les moyens, elle amène deux tourterelles. Combien ça vaut une tourterelle?
30 centimes.
D'accord?
30 centimes.
Attends, c'est quoi une tourterelle, Yaakov?
Ouais, c'est un petit
oiseau. C'est un pigeon, un moineau.
Ici, elle n'a pas encore.
D'accord.
Oui.
Quand tu vois que la baguette, elle est à 1 euro.
Bon. Tu remplis même pas ton assiette avec ça. C'est même pas le repas de... Il n'y a rien avec ça. Il te faut 2-3 tourterelles pour remplir ton assiette.
Ouais,
c'est gentil.
Là-bas.
D'accord.
C'est une tourterelle cachère.
C'est un petit pigeon, mais quand vous récupérez la viande.
Ça dépend qui lui fait la chrita, à vrai dire.
Il reste rien, une tourterelle. Une tourterelle, vous remplissez pas l'assiette, hein. C'est même pas une cuisse de poulet, c'est rien. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Explique le Zohar.
Un poulet, c'est 10 euros.
Ouais, ouais.
Un poisson rouge, c'est comme ça, tu fais payer 2 euros le poisson rouge.
Ouais,
mais... C'est parce que t'es un pigeon.
2 euros.
Il était dressé, c'est pour ça.
J'ai dit pigeon dans le sens qu'on vient de dire. Hein.
Toi, ta voiture, elle va brûler complètement du côté.
C'est fini, elle est déjà brûlée. C'est une épave, ça y est.
Si, ils t'ont
amené.
Tu vois,
tu
crées un peu le côté.
Non, mais après, ça a pris le... Non, c'est fini, elle est morte.
Ah, elle est morte.
Ah oui, elle est morte. Capara.
Non, le capara, c'est parce qu'il y avait $1 million sous le siège.
Non, en plus, je garde après titre, parce que dans le coffre, il y avait des Michelar Manot. Il y avait des Michelar Manot, il y avait...
Des Michelar Manot gris,
maintenant. Ils ne sont pas brûlés.
Ah.
Ils n'ont pas brûlé, Michelar Manot. Toute la voiture est carbonisée.
Ouais. T'avais des choses, non ?
Toute la voiture, elle est carbonisée. La voiture, c'est même les sièges auto, je les ai récupérés, carbonisés. Rien.
Tu les as récupérés ?
J'ai pas récupéré, ouais. Je voulais voir ce qu'il y avait. Carbonisé. Mais tout ce qui était...
La voiture,
non.
Disons, c'est
diesel.
La mobilette, on a mis le feu, c'est pas ta voiture plutôt ?
Non, j'ai vu, non, les pompiers m'ont dit aussi après tout. C'est la mobilette, et ça a pris feu, mais bon. Et tout le côté a pris feu, donc du coup, mais à l'arrière... Ouais, ça touchait les pneus. C'est exactement,
ah,
c'est le pneu.
C'est pas ça qu'a fait le coup parce que...
C'est à côté du pneu. Non, c'est vrai. Sur les quatre pneus, il y a un seul qui a été touché. Celui-là qui a le pneu à côté du moteur. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, les Michelar Manot n'ont pas été touchés. Et il y avait aussi un sac dans lequel qu'on a laissé hier dans la voiture, dans lequel il y avait le livret de famille des enfants, etc. Non, il n'y a pas brûlé.
Ah, il n'a pas brûlé.
Non. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il fait les choses bien.
Voilà, maintenant, avec les éléments, je comprends pour aussi c'est capable.
Kadosh Baruch Hu, il fait les choses. Il y avait un appareil photo dedans et tout. La voiture était ouverte toute la nuit.
D'accord.
Ils l'ont inspiré chez eux et tout. J'ai sorti et rien. Rien. Tout était intact.
Ah, ok, d'accord.
À savoir. C'est que ça, Kadosh Baruch Hu, les calculs de Kadosh Baruch Hu.
T'as tout récupéré ce qu'il y a à l'intérieur.
J'ai récupéré ce que Kadosh Baruch Hu voulait que je récupère.
Okay. Donc,
d'accord.
Une voiture,
quoi? J'achète ta voiture si tu veux.
Avec
je la reprends pour une ombre du prix. Mais là-haut. Donc, Béa Cravate, on s'arrête ici, on finira la semaine prochaine. Béa Cravate, Ofechat, Benyona, Otor, Al-Gaba, Misbar, Rokomet, Mintra. Explique les Mourazaken. On reviendra dessus la semaine prochaine si Dieu veut. On voit comment, ici-bas, lorsqu'on offre même une poignée de farine, un réveil d'en bas, peut faire des choses extraordinaires en haut, peut faire un réveil d'en haut extraordinaire. Donc avec ça, qu'est-ce qu'il veut expliquer à l'Admor HaZaken? Il veut expliquer une notion qu'on finira avec Ratachem la semaine prochaine, que lorsqu'on a une épreuve, il faut être des simra, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, d'accord? On paye ici, c'est pas cher, prenez, c'est pas cher, parce qu'une fois qu'on arrive en haut, après c'est le monde du din. Après Kadosh Baruch Hu dit maintenant, on paye cher, d'accord? Quand on est en bas, Kadosh Baruch Hu, c'est un reste que Kadosh Baruch Hu nous nettoie ici, On dit merci à Kadosh Baruch Hu et on demande à Kadosh Baruch Hu que tu sois chesed v'rachamim. D'accord. Voilà pourquoi on est Bessimra.
Puisque c'est un chesed ici. Il ne va pas nous laisser partir avec des choses à payer encore là-bas. Entre le chesed que vous avez dit,
tout. Des fois, il ne peut pas faire autrement.
Non, c'est très simple.
C'est que. C'est pour vraiment des réchaïm.
Des fois, il ne peut pas tout
évoquer. C'est un enfant. C'est comme on dit qu'à un enfant, on pardonne très rapidement. Parce qu'on dit qu'il n'a pas compris ce qu'il a fait. Donc, en une minute, il peut avoir fait une grosse bêtise et avoir fait un grand pardon. Tu vois? Alors qu'un adulte, avant de faire une grosse bêtise, ça prend du temps, pardon, ça prend du temps, tout prend du temps. Nous, ici, on est comme des enfants. Donc, qu'est-ce que j'aurais dit? Bon, vous regardez pas, on vous accorde le bénéfice du doute. D'accord? Bon, ça va, c'est bon, vous avez pris, donnant, c'est ok, on efface. Donc, quand on arrive en haut, c'est le monde de la vérité. Dans le monde de la vérité, on peut plus mentir. On peut plus te faire croire que tu vas réparer en bougeant un petit truc, alors qu'en vérité, il faut changer le monde. C'est la raison pour laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu d'être nettoyé ici. On s'arrête ici pour aujourd'hui, et ce prochain, on fait un sioum. Il faudrait qu'on s'organise pour le...
David.